Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Et Histoire d'en savoir plus aujourd'hui va nous emmener au Sable d'Olonne avec les marins du Kifanlo. Ce sont des pêcheurs et le Kifanlo est un chalutier qui a fonctionné comme chalutier et qui aujourd'hui permet aux touristes et aux gens qui le veulent de voir comment se pratiquait la pêche au chalut il y a 30 et 40 ans. Bonjour messieurs. Et merci de bien vouloir répondre aux questions de Radio Grand Ciel. Alors j'ai autour de moi Monsieur Ghislain Beau, qui est le patron du Kifanlo, et Monsieur Éric Trichet, qui est le matelot.
Mécanicien. Bonjour.
Monsieur Trichet, le mécanicien. Alors parlez-nous un peu du bateau.
Alors le Kifanlo est un chalutier qui a été construit en 1955 au chantier Batifort des Sables d'Olonne. C'est vraiment local, il était lancé sur la cale qui est juste en face le ponton où il est aujourd'hui et qui a pratiqué la pêche au chalut classique de 1955 à 1983.
Ah oui, quand même, c'est un vrai bateau.
Donc une vraie carrière de chalutier de bateau de pêche. Et le port des Sables d'Olonne était réputé à l'époque pour ses constructions navales et il avait construit une grande partie des tonniers, des voiliers tonniers qui partaient pour pêcher le thon sur l'Atlantique, mais qui étaient même les tonniers basés à Etel et basés sur l'île de Groix en Bretagne, les armateurs venaient souvent faire construire des bateaux sur les Sables d'Olonne. Ils avaient une belle réputation de construction navale.
Et c'est un bateau en bois.
Entièrement en bois, bien sûr, qui a la particularité d'être un peu, aussi dans son architecture, la période charnière entre les anciens voiliers et les chalutiers à moteur qui ont pris la relève.
D'accord, chalutier à moteur, mais il a un moteur pourtant.
Celui-ci, c'est bien un chalutier à moteur, hein. Mais un moteur...
Somme à chevaux.
Voilà, qui n'a pas les puissances que l'on peut trouver aujourd'hui ou même dans les années qui ont suivi à bord des bateaux. Et surtout, la technique de pêche évolue. Et donc, c'est pour ça que dans les années 80, le chalut classique est devenu obsolète.
Pêche arrière.
Oui, c'était remplacé par des bateaux qui aujourd'hui pêchent par l'arrière. Certains bateaux, même de cette époque, hein, des années 50, étaient déjà équipés d'un tableau arrière droit, donc ont pu être armés ensuite en pêche arrière avec l'ajout d'un portique sur l'arrière et des enrouleurs hydrauliques. Donc ont pu commencer à pêcher par l'arrière. C'est-à-dire qu'ils ont continué leur carrière de pêche professionnelle pendant encore 10-15 ans, avant de devenir obsolète aussi et d'être remplacé aujourd'hui par des chalutiers avec des ponts entièrement couverts qui sont construits en acier, où la sécurité de l'équipage est quand même largement accrue par rapport par rapport au chalutier classique.
Par rapport à nous, là.
C'est certainement une des causes aussi pour laquelle le chalut classique s'est terminé dans les années 80. En fait, la particularité, c'est que le bateau file son chalut. Alors, le chalut, c'est le filet qu'on va remorquer ensuite derrière.
Sur le côté.
Et donc, le bateau, pour filer le chalut et pour le relever ensuite, il doit toujours se mettre en travers du vent et de la mer. Donc l'équipage exposé au maximum aux éléments, que ce soit la mer ou le vent.
Donc c'est une question de sécurité.
Oui.
Parce qu'il y a une part sécurité,
voilà,
une part sécurité puis une part économique. Et en plus, pour la part sécurité, bon, donc on comprend facilement donc, le danger de travailler comme ça par le travers. Lorsque le temps changeait, les gars se retrouvaient dans des conditions vraiment délicates, vraiment limite pour réussir à virer et remonter le chalut. En hiver, bon, les gars étaient toujours dans l'eau, donc c'est quand même des conditions terribles. Hein. Et une part économique aussi, parce que vous voyez, le chalutier est équipé pour pêcher des deux côtés. Il pêchait que d'un seul côté à la fois, bien entendu. Mais si le chalut du côté où il pêchait était abîmé, on remontait entièrement le chalut, on remontait les panneaux à bord et on mettait le deuxième chalut à l'eau. Ce qui prenait quand même pas mal de temps pour changer de côté. Alors qu'aujourd'hui, c'est une manœuvre sur un chalutier pêche arrière qui va se faire en quelques minutes, quoi. Donc il y avait quand même une raison économique, parce que le chalutier partait 9 jours, et il virait le chalut toutes les 3h30. Ouais. C'est ce qui rythmait la vie à bord du bateau.
Mais quelle quantité de poissons il y avait? Jour et nuit, oui.
Combien il pouvait charger de...
5-6 tonnes.
5-6 tonnes
par marée.
Il y avait 5-6 tonnes par marée.
La marée, c'est l'ensemble des...
Voilà, c'est les 8 jours de mer.
Les 8 jours de mer, d'accord.
5-6 tonnes,
c'est
un peu plus...
Et ces bateaux-là donc faisaient le chalut l'hiver sur le golfe et au beau jour pouvaient être armés pour la pêche au thon. En début de campagne, ils pouvaient descendre pratiquement jusque sur les Açores, sur l'Espagne, entre l'Espagne et les
Portugal,
Açores, Portugal, et ils suivaient la migration du thon, qui remontait vers le nord en longeant un peu le plateau continental, et les dernières marées se pratiquaient dans le large de l'Irlande.
Vous avez fait ce genre de...
Je l'ai fait, oui.
Vous l'avez fait
aussi.
Et vous en avez gardé quel souvenir?
Oh, très bien.
Très bien.
Bien, ouais.
Bon souvenir, c'est votre vie de marin, ça.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc là, par contre, quand il faisait la pêche au thon, le bateau pouvait partir pour démarrer de 30 à 35 jours.
Donc la vie de la famille de marin était aussi difficile.
Oui, là, là, oui.
Désiré, marin breton, vient de ton nom. Personne n'a vaincu tes passions. Pays de mer dans tes embruns, on sent l'histoire de tes marins. Pêcheurs d'Islande ou vampoureux, ta cloche teinte dans nos cœurs. Pays de mer dans tes embruns, on sent l'histoire de tes marins. Pêcheurs d'Islande ou vampoureux, ta cloche teinte dans nos cœurs.
Alors, maintenant, parlons un peu de la pêche. Le chalutage, c'est le fait de...
On met le chalut à l'eau par le travers, on le remonte par le travers.
C'est un petit chalut. Hein.
C'est surtout un chalut de fond, c'est-à-dire que c'est un chalut qu'on va remorquer sur le fond de vase ou de sable, dans le secteur, dans le golfe de Gascogne et autres, et donc il va aller pêcher essentiellement des poissons plats, des poissons de fond. Essentiellement des sols, turbos, des plis, des merluchons, tout ce qui se promène vers le fond. Et aujourd'hui, les techniques de pêche ont évolué aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de chalutiers qui ont des chaluts pélagiques.
Oui.
C'est-à-dire que ce ne sont plus des chaluts uniquement qui pêchent sur le fond, c'est des chaluts un peu carrés, oui, qui ont la particularité de pouvoir remonter ou descendre à la hauteur désirée par le patron du bateau pour pêcher le poisson pélagique. En fait, c'est le poisson pélagique, c'est le poisson qui est entre deux eaux.
Et alors, le poisson pélagique, on le repère avec un système de radio ou de radar ou de...
Oui, c'est ça.
De son sondeur et sonar.
Oui,
là, le bateau travaille encore un peu comme il y a pas mal d'années.
Les années,
au niveau électronique, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'électronique à bord du bateau. Hein, il y a le radar, parce que ça, c'est nécessaire pour avoir des problèmes de brouillard aussi. Si on se faisait avoir dans le brouillard pour voir quand même les bateaux qui sont autour de nous et la côte. Mais autrement, au niveau électronique, on a simplement un petit appareil qui est un torrent, parce que c'est vrai que depuis
GPS,
l'après-guerre, ouais, en fait, les gens travaillaient beaucoup au DK, torrent.
C'était
des émetteurs, en fait, émetteurs qui envoyaient des informations. Et les marins étaient habitués à travailler avec des plans qui reprenaient, en fait, ces émissions torrent. Ouais. Et Gislain travaille toujours avec des émissions torrent. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, bon, les bateaux sont passés avec les GPS, avec les logiciels de navigation beaucoup plus perfectionnés. Mais là, on travaille toujours au torrent.
Au torrent, ça veut dire quoi ?
L'origine, en fait, le torrent, ça avait été mis au point pendant la guerre pour former des pilotes anglais. L'aviation anglaise n'avait pas le temps forcément de donner des cours de navigation classiques à tous ces pilotes, comme on l'aurait fait en temps de paix. Donc la formation était plutôt courte. Donc les ingénieurs avaient mis au point un système avec des émetteurs qui envoyaient donc des données qui étaient reçues par des appareils qu'on mettait à bord des avions avec des petits cadrans. Et en fait, ces cadrans tournaient dans un sens si on allait vers le nord ou vers le sud, et dans l'autre sens, on allait vers l'est ou l'ouest. Et il suffisait, en fait, d'avoir les données auxquelles on voulait aller pour trouver, en fait, les bonnes données sur des cadrans. Et donc, quand la personne était exactement sur les deux données des cadrans où il devait bombarder ou faire des photos ou autre, ben, il était sur place, il lâchait ses bombes, il revenait, il avait à nouveau la position qui repartait vers le nord ou vers le sud. Ce qui fait que ça évitait beaucoup de problèmes de navigation, mais après, c'est venu à la pêche et à toute la navigation maritime. Hein, donc les émetteurs ont continué pendant pas mal d'années, jusqu'à l'arrivée du GPS dans les années 80. Quoi.
GPS et radar.
Le radar est arrivé aussi quand même avant. Le radar n'a pas la même fonction. Le radar est surtout pour voir autour de vous, dans le brouillard, s'il y a quelque chose.
D'accord.
Hein, le radar, il va prendre des échos des autres navires qui seront sur le secteur devant vous. Et il va prendre aussi un écho la Terre si vous vous rapprochez de la Terre.
Donc vous avez été obligé aussi de vous former au fur et à mesure.
Oui, oui.
Et vous, votre
bien
métier,
sûr,
c'était de conduire le bateau.
Oui, enfin, le
tifon, oui, oui. Et auparavant, vous conduisiez le bateau ou c'était...
C'était matelot, non.
Vous étiez matelot. D'accord. Ce qui m'a frappé aussi, c'est l'aspect physique du...
C'est un costaud, hein.
Oui.
Ah ben ça, c'est la particularité du classique, quoi. Hein, on remonte, en fait, toute la nappe, oui, de chalut. Bon, maintenant, il est vrai
c'est
que...
une habitude, hein.
Ouais, ouais. Oui. Il est vrai aussi que si le bateau est en configuration de pêche professionnelle, on remonterait pas tout le chalut à bord du bateau à chaque fois. Ah, on virerait le cul, hein, pour on virerait que le cul, on remonterait pas tout le chalut à la main. Mais là, étant donné qu'on donne un seul trait de chalut
la pochée,
pendant la sortie, on virerait que la pochée. Ouais. Là, vu qu'on donne un seul trait de chalut, on est bien obligé de remonter tout le chalut à bord à chaque fois.
Oui, et le poisson se trouve effectivement
et
dans
le poisson
filet
dans
qui
la
est
pochée est à... Oui. À l'extrémité.
Donc il y avait la possibilité de ne remonter
que la pochée. Que la pochée. Mais ça reste néanmoins physique et il y avait des particularités, surtout c'était de crocheter le chien. Hein, oui, ce qu'on fait toujours, de crocheter le chien à l'arrière. Je sais pas si vous avez vu la manœuvre, là, quand Ghislain est debout sur la lisse à l'arrière pour aller chercher le deuxième câble. Donc, on appelle ça des funes sur les chalutiers. Le câble de devant pour le ramener et le retenir dans une mâchoire à l'arrière. Et ça, ce chien, c'était à l'origine beaucoup d'accidents au niveau des mains et tout pour les marins. Parce que quand il faisait mauvais temps d'aller essayer d'entourer ses câbles par une mâchoire métallique ou autre, les gars, ils laissaient régulièrement des doigts. Parce que ça, par contre, c'est affaire à chaque fois que le bateau virait. Donc, quelle que soit l'heure, quelle que soit la météo, si les gars se levaient, ben, ils commençaient par aller larguer le chien. Donc là, c'était vraiment le... Mais quand ils reprenaient le chien, ben, il fallait vraiment faire attention d'être bien réveillé. Et puis, que le gars au treuil, surtout que tout a évolué aussi. Hein, parce que on a la chance, et c'est la seule partie un peu moderne du kiffant l'eau aujourd'hui, c'est d'avoir un treuil hydraulique. Hein, mais à l'origine, le treuil n'était pas hydraulique. Hein. Les treuils, ils fonctionnaient avec des courroies qui étaient prises directement sur le moteur. Et alors, aujourd'hui, avec l'hydraulique, on peut se permettre de stopper le treuil quand on veut. Ouais. Voilà. Avec la courroie, c'était déjà une autre histoire. Ça, une fois que le treuil était bien lancé,
ça cassait,
il fallait se mettre sur le frein pour essayer de l'arrêter. Mais parfois, le treuil faisait encore deux tours avant de s'arrêter. Quoi. Donc, c'était quand même plus dangereux à l'époque. Hein. Et même pour crocheter le chien et tout, il fallait vraiment que le gars qui sache bien doser le moment où il fallait arrêter le...
Ah, moi, je vous demandais ce que c'est que le chien, exactement.
C'est alors, le chien, c'est chien, justement c'est cette mâchoire métallique qui était surnommée le chien.
Ah, d'accord. Voilà. C'est pour moi, le chien, c'est...
Oui, d'accord. Alors, est-ce que c'est dû aux morsures qu'il a vu infliger à pas mal de monde? Je sais pas, mais... je sais pas pourquoi ça a été nommé le chien, mais... mais c'est vraiment la particularité du classique. Ah, vous, le
chien. Ça jappe.
Ben oui, il n'y a pas de chien, sur les chalutiers.
Il fait du bruit.
Oui, aussi, oui, peut-être, oui.
Ça jappe, oui. C'est pour ça que je crois que ça va être une succession.
Alors, l'association qui gère ce bateau, qu'est-ce qui vous a amené à dire, eh bien, on va préserver un bateau, on va poursuivre, pour garder les techniques, pour montrer comment c'était? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode de redécouvrir les métiers d'autrefois.
Pour les gens, je crois. Hein,
oui.
C'est intéressant.
C'est surtout que au moment, dans les années, début des années 80, donc à la fin du chalutage classique, ben, je crois que c'était un peu le dernier... un symbole, comme je disais tout à l'heure, il y avait d'autres bateaux, le Michel Daniel, qui lui est parti en plaisance faire du charter sur les Antilles. Daniel Annie, je pense que lui, il est parti sur l'Afrique. Oui. Beaucoup de bateaux aussi partaient ensuite refaire une nouvelle carrière sur l'Afrique. Oui. Et là, c'était le dernier qui restait sur le port des Sables, et tellement typique avec son arrière arrondi. Hein, il est typique, en fait, un peu des anciens voiliers sablés, des gazelles des Sables, oui, qui faisaient le ton. Qui avait sensiblement la même forme de coque. Et donc, je pense que en 83, lorsqu'il sortait de flotte, c'est ce qui a poussé un petit peu l'association Océane à racheter le bateau, à devenir propriétaire du bateau et le sauvegarder. Et rapidement, en fait, le bateau est devenu monument historique.
Donc, il
est monument historique. Il est monument historique et c'est en chalutier certainement le seul monument historique qui continue à travailler.
Ah oui, qui continue à travailler.
Qui continue à travailler réellement comme il l'a fait pendant toute sa carrière professionnelle.
C'est un monument historique, mais en même temps, c'est un monument qui permet d'expérimenter les choses.
Tout à fait. Et aujourd'hui, même, on a une demande aussi de l'École des pêches des Sables d'Olonne pour amener les premières années de CAP à bord, pour montrer aux jeunes futurs marins aussi les méthodes de travail de leurs grands-parents ou de leurs parents.
Il y a une école, Sables d'Olonne?
Ah oui, une école de formation au métier de la mer qui travaille bien. Il y a encore quand même de bonnes sessions et tout. Alors en plus, Aujourd'hui, il y a toute la partie aussi formation continue. Un des jeunes matelots, aujourd'hui, ont la chance encore de pouvoir faire une formation continue pour prétendre à devenir capitaine du bateau ou chef mécanicien ou autre. Et il y a aussi quand même un creuset de jeunes qui viennent, alors qui ne sont pas forcément aujourd'hui des sablés, ni forcément des gens du littoral. Ouais. On voit des gens venir maintenant un peu même passionnés par la mer et qui ont envie de pratiquer le métier de marin-pêcheur.
Oups, c'est un métier difficile quand même.
C'est un métier difficile, ça reste surtout difficile, surtout pour la relation familiale ou autre, parce que même si aujourd'hui les bateaux sont plus confortables ou autre, il n'empêche que les bateaux peuvent rentrer au port plus souvent pour certains, surtout pour la scène danoise. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que les gens ont le temps d'aller chez eux. Le bateau rentre, il les cherche à pêche et il repart. Hein, donc, l'éloignement de la famille est resté pratiquement le même. Hein, donc,
c'est 10 jours, je crois.
Ouais, une dizaine de jours de marée. Donc, et quand ils font le thon aussi aujourd'hui, c'est pareil, ils font 15 jours, 20 jours, 30 jours s'il le faut, quoi. Donc, la partie éloignement de la famille, rapport avec la famille est resté quand même le même. Le travail est moins dur. L'arrivée de l'hydraulique, l'arrivée de certaines choses, et surtout les bons couverts, aujourd'hui, met quand même l'équipage un peu à l'abri des intempéries. Même si, malheureusement, on n'est pas à l'abri tout le temps. Hein, donc, mais bon, ça protège bien quand même. C'est une bonne évolution.
Voilà. Mais effectivement, de toute façon, les gens qui choisissent ce métier connaissent les inconvénients du métier.
Ils
partent 10 jours en mer.
Oui, puis s'ils ne le connaissent pas, ils le connaissent rapidement. Hein, parce que les premières marées, on leur montrait un peu quand même à les difficultés du métier. Et puis,
Les contraintes du métier.
Les contraintes du métier, tout à fait.
Est-ce que c'est bien payé?
Et non, quoi.
Ça a certainement été mieux payé une période. Oui. Mais aujourd'hui, la personne qui se débrouille arrive quand même à sortir un salaire correct.
Qui travaille bien.
Par contre, si on ramène ça au taux horaire par rapport au nombre d'heures pratiquées à la mer, c'est ridicule. Mais par contre, on peut sortir de bons salaires encore aujourd'hui à la pêche. Ouais. Hein, après, il y a des bateaux forcément qui travaillent mieux les uns que les autres. Hein, mais on peut sortir encore de bons salaires en comparaison. Je pense qu'il faudrait des années d'études pour obtenir sur le salaire à terre. Ouais. Mais par contre, en contrepartie, il y a quand même des contraintes familiales liées à la mer et
il y a le mauvais temps,
l'isolement et autres, les risques quand même, quoi. Voilà. Parce que même si les bateaux ont évolué, si les méthodes de navigation ont évolué, il n'empêche pas moins qu'il arrive encore des accidents et que malgré tout, il y a quand même encore des naufrages et des drames en mer.
Oui, c'est vrai, on avait vu le galet de Brest là. C'est encore autre chose.
Oui.
On n'a jamais su exactement ce qui s'était passé, mais enfin bon, tout le monde est parti par le fond.
Moi, je sais, nous. Hein.
Oui. Tout le monde maritime sait ce qui s'est passé.
Oui, c'est
C'est un sous-marin qui.
C'est du sous-marin qui
est entraîné par le fond.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas la première fois qu'il y a des sous-marins qui se prennent dans les chaluts. Et malheureusement, il y en aura d'autres parce qu'ils aiment bien se mettre en dessous des chalutiers. Ça permet que ses autres concurrents sous l'eau n'entendent que l'hélice du chalutier et le bruit de la pêche plus que le bruit du sous-marin en dessous. Donc ils se camouflent par le bruit, quoi.
Un chalutier de ce type, donc, qui est quand même relativement limité, ne sortait pas quand il y avait des houles très fortes.
Non.
Et parce que quelquefois, il y a quand même des creux de 5-6 mètres et du vent aussi.
Oui.
Alors, ils ne sortaient pas parce que les patrons connaissaient les limites de leur bateau du fait justement du chalutage classique, là encore.
Oui.
Par contre, ils se prenaient quand même du mauvais temps. Parce que quand ils se retrouvaient à prendre du mauvais temps au large, ils étaient déjà en pêche. À ce moment-là, ils se mettaient en cap. Ils étaient obligés de se mettre en cap, c'est-à-dire qu'ils arrêtaient le chalutage, ils avançaient doucement face à la vague, face aux vagues, face à la mer, pour laisser passer le coup dur de la dépression et de la tempête.
D'accord, on laisse passer et puis on revient.
Reprendre la pêche derrière.
On reprend la pêche derrière.
Ouais.
Oui, alors bien, nous sommes dans la petite cabane touristique qui est sur le port des Sables-d'Olonne, et là on voit des gens qui viennent, qui s'intéressent. Alors, est-ce que cette deuxième vie de pour le kiff en l'eau, est-ce que c'est une activité qui dure seulement la saison touristique? Comment ça se passe?
Oui, ça dure
que juin,
trois mois. Juin, juillet, août, et puis juin, septembre.
Voilà, puis après, c'est les conditions météo, de toute manière, limiteraient tellement en période hivernale que... Non, ça, c'est vraiment une activité touristique aujourd'hui.
C'est une activité touristique aujourd'hui.
Ouais. Mais intéressante, parce qu'elle démontre bien, quand même, la réalité de la vie de marin-pêcheur au Sable. C'est le seul tremplin pour pouvoir essayer hein, de se mettre un peu dans la peau d'un marin-pêcheur aujourd'hui, c'est à bord du kiff en l'eau, parce que les autres bateaux ne peuvent pas embarquer de passagers comme ça. Quoi.
Ah, moi, j'avoue que quand je paye le poisson, eh ben maintenant, je penserai quand même au travail qu'il y a derrière. Et le sentiment que l'on a par rapport au prix du poisson même, je me dis, si c'est du poisson français, je penserai à vous et au travail que ça représente. Parce que finalement, on ne repère pas ça, cette activité. Parce que, alors, parlons un peu du... Vous avez remonté, la partie du... Du chalut,
le cul du chalut.
La poche. Où il y a le. Alors, moi, j'étais impressionné de voir le nombre d'étoiles de mer de déchets et qu'on renvoie. Alors, comment ça se passe par rapport au fond? Parce que j'imagine que si on renvoie les étoiles de mer, les étoiles de mer, elles continuent à proliférer. On ramasse le poisson et le poisson, il n'y en a plus, non?
Comment ça se passe? Les étoiles de mer, ça ne se ramasse pas,
ça, c'est clair. Enfin, je pense aux étoiles de mer, à tous ces petits crabes, enfin tous.
Oui.
Le poisson, vous voyez quand même, dans le trait de chalut qu'on a fait hier, on a fait un trait de chalut de 40 minutes.
Oui.
Vous voyez que du poisson, il en reste encore sur nos côtes atlantiques. Parce que
pour
40 minutes, ça fait quand même une belle petite pêche de sol. Par contre, on a bien vu, il y a beaucoup de petits crabes, beaucoup de petites choses qui ne sont pas commercialisables. Et donc, qu'on est obligé de renvoyer à la mer.
Oui, parce que quand même, alors c'est réglementé, la taille des...
Ah oui,
là,
oui,
j'imagine que oui, pour ce trait de chalut, c'est réglementé.
Ah, aussi, le maillage des chaluts est réglementé, hein, donc est contrôlé régulièrement, et la taille des poissons est réglementée également. On ne peut pas pêcher n'importe quel poisson. Il y a des tailles à respecter pour le poisson également.
Oui, mais j'ai vu hier que vous avez rebalancé le petit combre, par exemple.
Oui, parce que...
Ça n'a pas d'intérêt.
Non, on aurait pu le garder. Je pense qu'il n'y a pas de problème, on pouvait le garder. Mais bon, il n'y a pas un intérêt pour... Donc c'est pour ça qu'il est reparti à l'eau.
Il est reparti à l'eau.
Pour une nouvelle carrière, lui aussi, parce que je pense pas que... Je pense que lui vivra. Par contre, il faut savoir quand même qu'il y a une grande partie du poisson, quand on le renvoie, qui est mort.
Ah bon?
Oui, parce que on pêche pas dans des grands fonds, on est par 25 mètres, mais c'est malgré tout bien souvent la différence de pression ou autre, et les poissons des vessies à l'intérieur qui ne supportent pas la différence de pression trop brutale. Et,
oui, puis on le sort à l'air.
On le sort à l'air pendant quelques temps.
Parce que c'est trié rapidement. Non,
par contre, j'ai vu aussi que ça fait quand même la joie de tous les oiseaux du secteur qui viennent se nourrir immédiatement. Hein,
ils font le nettoyage.
Ils font le nettoyage, oui. Puis je pense que ça doit faire la joie aussi hein, de toute la vie sous-marine hein, qui vient se nourrir derrière aussi et qui en profite pour récupérer ça. On n'a pas eu la chance de voir de dauphins hier matin, mais on en a vu régulièrement les semaines précédentes.
Tous les jours, presque.
Et bien souvent, ils se mettent derrière le chalut parce que le chalut brassant un peu de vase. Bon, il restait derrière le chalut et il devait venir chercher ce qu'on sortait de la vase derrière. On a même vu une fois ou deux et là les gens étaient vraiment épatés. C'est que les dauphins ont suivi la poche du chalut et sont venus s'arrêter le long du bord au moment où on virait la poche du chalut. Les dauphins étaient arrêtés le long du bord en train de regarder ce qu'il y avait dans le chalut. Et là les gens ont pu mitrailler de photos et tout. Et là les enfants étaient enchantés. Ouais. Et même les sorties, hein, les gens apprécient aussi tous ces oiseaux qui viennent derrière pour récupérer le poisson et autres.
Oui, ça, c'est l'aspect touristique, ça fait des belles images.
Ça fait des belles images intéressantes.
C'est vrai aussi que...
Toutes les mouettes là, qui viennent derrière, là, c'est joli.
Alors, par contre, aujourd'hui, la pêche est extrêmement réglementée. Hein.
Oui.
Hein, vous avez pour la pêche professionnelle, hein, donc des quotas qui sont imposés aujourd'hui. Hein, et avec des taux de capture admissibles ou autres, il y a des choses les gens ne font pas n'importe quoi.
Hein,
on a des quotas d'imposés par les différentes pêches aussi. Hein. Nous, on parle du chalutage aujourd'hui, mais le port des sables aussi, une bonne partie de flotte de filayeurs. Là, ce sont des bateaux qui vont mouiller des filets sur plusieurs kilomètres et qui les laissent toute la nuit et qui viennent les reprendre le lendemain sur des filets moyens.
Oui. Hein,
ils ne sont pas dérivants, ils sont sur le fond et ils viennent les revirer le lendemain et ils pêchent essentiellement de la sole aussi. Et donc, beaucoup de bateaux aujourd'hui, ben, il y a des quotas qui sont imposés. Quand le bateau arrive au terme de son quota, il est obligé d'arrêter.
Ah oui, il arrête.
Il est obligé d'arrêter et de passer à l'autre pêche.
Ah oui, soit on passe à une autre pêche, soit on est obligé d'arrêter celle-là.
Soit on est obligé d'arrêter.
Et c'est en vue de protéger la
En vue de protéger les ressources, complètement. Oui, c'est complètement en vue de protéger les ressources. Et aujourd'hui, tous les bateaux sont suivis par la surveillance des pêches. Il n'y a pas les bateaux de pêche français dans le monde sont tous surveillés par de manière électronique. Hein, ils doivent communiquer en permanence l'espèce capturée, le poids capturé dans chaque espèce et le transmettre par moyen informatique et satellitaire au bureau de surveillance des pêches,
hein,
qui sait exactement en temps et en heure ce qui est pêché et ce que fait chaque bateau dans le monde, chaque bateau français.
D'accord. Ça veut dire que sur place, on traite le poisson et puis on congèle.
Oui.
Mais sur ce type de bateau, quand on rentrait au bout de 8 jours, comment se faisait la conservation du poisson ?
La glace.
Le bateau, le poisson était dans la glace.
On embarquait la glace.
Dans la glace.
Alors aujourd'hui, les cales des bateaux sont réfrigérées également.
Oui.
La glace est en paillette. Le poisson est mieux travaillé qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui, tout est mis en caisse. Par espèce, c'est tout bien stocké et dans
c'est
des cales réfrigérées.
Tout
est pesé, tout est par taille ou autre.
Voilà.
Alors qu'à l'époque, le poisson était mis dans la glacière.
En vraille, voilà.
Et par contre, à l'époque, en plus, la glace n'était pas de la même qualité qu'aujourd'hui. La cale n'était pas réfrigérée, donc au bout d'un moment, la glace devenait un peu solide. Et il fallait piquer, casser la glace pour réussir à en faire des petits morceaux pour le mettre sur le poisson.
Oui, d'accord. Ouais.
La glacière servait aussi de garde-manger pour l'équipage.
Oui.
La viande pour la marée était mise aussi dans la glace.
Oui, parce que finalement, il fallait aussi habiter sur...
Il fallait nourrir 5 à 6 personnes aussi pendant 9 jours. Quoi.
Alors, se nourrir, dormir...
Se nourrir, se dormir...
Vie, toute la vie quotidienne...
Ouais.
C'est pas trop propre, mais bon...
Franchement, tout le monde était dans le même navire, là, donc...
Dans le même bateau, pour le coup,
Mais ben, même au niveau de nourriture, elle arrive régulièrement.
Pas de douche,
Ça, la seule réserve d'eau, c'était pour la boisson.
Pour la boisson, et puis on voyait que le reste, c'était notre mère qui
faisait tout. C'est notre mère qui fait tout,
oui. Oui, c'est ça.
Mais la nourriture, il arrivait régulièrement que la viande devienne un peu verdâtre, donc trempée dans le vinaigre pour pouvoir la manger avant, quoi. Donc,
voilà. Donc on mangeait du poisson à la limite.
Mais mieux manger du poisson, oui. Mais mieux manger
plus
du poisson.
Frais que la
viande. De la conserve.
Le pain n'est pas facile à conserver. Même si le pain, c'était du pain un peu spécial, les boulangers faisaient recuire le pain pour qu'il y ait une croûte un peu plus épaisse pour qu'il se conserve mieux.
C'est des boules.
C'est une grosse boule.
Bien souvent.
Quel souvenir vous avez de cette vie de marin ?
Très bien.
Bon souvenir.
Un souvenir, oui.
Eh bien, notre émission s'achève. Je peux vous dire un grand merci de nous avoir expliqué, après cette promenade sur le kiff en l'eau, de nous avoir expliqué ce métier de marin et cette histoire du chalut, et auquel on peut souhaiter encore de bonnes années, puisque monument historique, normalement, il doit être protégé et voilà, et vous soignez bien, donc tout va bien.
Bonne route, quoi.
Bah, j'espère qu'il continue encore une grosse année.
Bonne route aussi par l'eau.
Il faut espérer. Voilà.
Oui. Merci beaucoup aux auditeurs, je dis au revoir. Et puis, si vous venez vers les Sables d'Olonne, ne ratez pas la possibilité d'aller sur le Kiff en l'eau. Au revoir.